les jardinières.
C'est la DER des jardinières avant la pause hivernale. Soyez les bienvenus. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour tout le monde.
Ce matin, notre cadeau à nous qu'on vous offre, c'est Jean-Pierre. Non, on va le laisser emballer, il fait froid quand même. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queuve et propriétaire de Ribaud Paysages. Vous êtes notre invité durant une heure. Merci d'être avec nous.
Et je vous propose de ne pas perdre une minute. On est parti pour une heure de jardinage. Bon réveil à tous.
7h, 8h, les jardinières.
Dans quelques minutes, Jean-Pierre, vous allez nous expliquer comment on travaille un paysagiste sur un chantier après la construction d'une maison. Mais tout d'abord, dites-nous, que fait le jardinier à la veille des fêtes de fin d'année ?
Oui, Mylène, eh bien, à cette veille de fête, je veux dire, selon les conditions météorologiques que nous avons, dans les aménagements, il ne reste plus grand-chose à faire, si ce n'est quelques tas de feuilles qui peuvent encore traîner par-ci, par-là, ou quelques vivaces à devoir être nettoyées, coupées. Sinon, on a plus de travail après dans les locaux pour de l'entretien de machines, de pompes à traiter, de soins particuliers sur cet outillage pour être apte au printemps, pour redémarrer dans de bonnes conditions.
Et puis si on a des plantes d'intérieur, est-ce qu'il faut jeter un œil sur une plante en particulier ou on les laisse vivre parce qu'on est à température ambiante ?
Non, alors on a toujours un œil particulier sur une plante qui se trouve à l'intérieur d'un bâti. D'autant plus parce que maintenant on chauffe, bien sûr, l'atmosphère est sèche, les végétaux continuent de vivre, donc il faut absolument les irriguer avec un volume d'eau raisonnable par semaine. On va peut-être un peu couper au niveau des mises en place, des apports d'engrais, parce qu'évidemment, à cette période, plus grand-chose ne pousse. Mais quand même, toujours être très observateur. On a aussi souvent, par ces périodes de conditions atmosphériques sèches, des attaques de parasites tels que des cochenilles ou des pucerons, ou des pucerons farineux. C'est un parasite qui donne une petite laiteuse blanche par-dessus. Donc cela, il ne faut pas les laisser s'épanouir parce que sinon, vous aurez des grosses attaques durant l'hiver qui vont se propager sur les autres plantes que vous avez dans vos appartements. Donc là, vraiment être attentif chaque semaine, un petit coup d'œil est nécessaire.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous pouvez poser déjà vos questions à notre professionnel. Vous pouvez le faire, trois possibilités pour le faire. Par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous êtes en direct avec nous d'ici quelques instants. Ou vraiment, vous pouvez le faire par SMS. Vous tapez jardin un espace. C'est votre question que vous nous envoyez au 939. Vous pouvez également aller sur le formulaire qui est disponible sur notre site internet.
Après la pause musicale, Jean-Pierre nous expliquera comment obtenir un bel extérieur suite à la construction d'une maison.
7h, 8h, les jardinières.
Félicitations, la construction de votre maison arrive à son terme. Mais qu'en est-il maintenant du terrain ? Ce dernier mérite en effet autant d'attention que votre habitation. Verdure, arbres, pelouse, il est temps de faire des choix. Et qui de mieux pour vous aider que Jean-Pierre, notre paysagiste ? Alors Jean-Pierre, avant de rêver à un joli jardin, on commence par quoi ?
Oui, alors il y a beaucoup de choses à prévoir, à penser, à programmer. Lorsque vous arrivez sur la parcelle, vous avez votre nouvelle maison qui est implantée, et puis que vous avez déjà soit le matériel qui a été mis en place par le paysagiste ou le génie civil, eh bien, il faut un peu étudier ce qui aura été fait pour se dire où c'est qu'on va mettre le potager, par exemple, où c'est qu'on va faire le biotope, où c'est qu'on voudrait faire une partie d'une semence avec du gazon fleuri. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui vont découler de ces mises en place de matériaux. Alors, à l'évidence, si vous arrivez avant la mise en place de ce matériel, ça veut dire que le génie civil ou le paysagiste vous aura fait des tas au préalable de la terre végétale, de l'horizon B, donc la terre qui est de moins bonne qualité, et puis après la terre des remblais. À ce moment-là, il faut avoir une grande réflexion sur le futur de vos aménagements et puis une très bonne discussion avec le gars qui va mettre en place ces éléments dans vos aménagements. Parce que si, par exemple, on imagine que vous souhaitez un potager de 5 par 4 au nord de votre parcelle, eh bien, à l'évidence, là, il faudrait que le sous-sol soit déjà un petit peu programmé pour avoir au moins un substrat qui va conserver l'humidité et puis, à l'évidence, pas quelque chose de trop rocailleux qui va vous l'assécher. Et puis après, bien sûr, au niveau de la mise en place de la terre, là, on lui mettra une très bonne épaisseur, alors 40 à 50 cm de terre végétale, la toute première qu'on aura prélevée à l'époque sur le terrain lors du terrassement pour avoir vraiment un potager de qualité. Et puis après, si vous avez décidé, par exemple, de vous imaginer la moitié de votre pelouse avec un gazon fleuri, eh bien là, il faudra travailler avec de la terre de moins bonne qualité. Parce que si vous avez une très bonne terre végétale, un gazon fleuri ne va pas s'épanouir. Ça veut dire la graminée, donc qui se trouve dans le gazon, elle va étouffer les fleurs que vous auriez souhaitées dans votre gazon fleuri. Par contre, si vous avez une terre de moins bonne qualité, eh bien, automatiquement, les rosettes de ces vivaces, de ces plantes à fleurs, vont s'épanouir. Et puis la graminée, elle va être plutôt d'un vert tendre, jaunâtre. Elle ne va pas se développer convenablement par rapport à ce qu'elle aurait souhaité. Et puis ce sera tout bonus par rapport aux fleurs de votre gazon fleuri.
Mais Jean-Pierre, vous parliez il y a quelques instants d'aménagement. Est-ce que dès le début, il faut déjà envisager tout son jardin ou est-ce qu'on peut y aller petit à petit ? Quel est le meilleur conseil finalement ? D'avoir un plan fixe dans la tête dès le début ou c'est beaucoup trop tôt ?
Non, il faut un peu programmer à la mise en place des éléments parce qu'une fois que ça aurait été mis en place avec une pelle mécanique, automatiquement, si vous intervenez derrière pour faire des modifications, le coût financier sera conséquent. Et puis, c'est quand même pas très difficile de prévoir à l'avance, avant la mise en place de ces matériaux dans vos aménagements, quel sera le futur. Parce que même si vous avez décidé que vous ferez un potager dans un coin, puis que plus tard, vous dites, oh ben non, le potager, j'aurai pas le temps, ou je vais le faire en jardin suspendu. Et bien, sur cette surface-là, vous pourrez lui mettre du gazon, il n'y aura pas une incidence. Par contre, si vous n'avez pas du tout prévu, puis que vous vous dites, ah non, ce potager, je tiens à l'avoir là, alors à l'évidence, il faudra rouvrir ces terres et puis aménager le site différemment, puis ce sera onéreux. Au même titre qu'un gazon fleuri, une pelouse, une haie ou une rocaille. Non, c'est des choses qu'il faut quand même projeter un peu à l'avance, avant la mise en place des matériaux, je pense. Ce sera bonus dans le temps, économiquement, et puis vous voulez avancer plus vite.
Donc peut-être faire un plan avant de se lancer dans les travaux. Penser à l'orientation, par exemple, où donne notre terrasse, qu'est-ce qu'on peut planter si elle est plein sud, mais aussi penser aux voisins, ça c'est important.
Oui, à l'évidence. En fait, il faut essayer de se projeter un peu sur l'ensemble de son aménagement. Bien sûr que chaque aménagement est différent pour un milliard de raisons. Ça peut être une surface où il y a beaucoup de terre et puis pas de pierre, ou inversement, des bancs de roches qu'on va mettre en valeur, qu'on va en tout cas pas couvrir de terre parce que ben, vous avez ces éléments-là, c'est des talus, c'est des surfaces qu'on peut faire vraiment déco. Par rapport au voisinage, pareil. Ben évidemment au niveau des talus, au niveau des remblais, au niveau, oui, il y a un milliard de paramètres qu'il faut tenir compte, qui peut être tenu par conversation avec le gars qui va vous mettre en place ces éléments.
Et puis pour un aménagement, est-ce que tout est possible ou est-ce qu'on peut imaginer une piscine n'importe où, des arbres un peu n'importe comment, ou est-ce qu'il y a vraiment des structures déjà bien précises ?
Alors, on va surtout travailler par rapport au dénivelé du terrain que vous avez. Bien sûr, si c'est une surface qui est toute plate, vous aurez moins de complications pour les implantations futures de vos éléments. Alors une piscine, on va chercher la proximité, l'ensoleillement, les canalisations, ce qui se trouve dans vos aménagements naturels déjà, pour ne pas être trop en contrainte avec ça. Vous pouvez un peu vous aménager comme vous voulez. Bien sûr, les grands végétaux, eh bien, on a des distances de plantation à respecter au niveau des lois. Ça, on est de toute façon attentif à tout ça. On va faire attention de ne pas avoir, nous, par rapport au bâti, trop d'ombrage durant le matin ou sur le soir. Évidemment, on va chercher de l'ombrage peut-être sur le coup des midi, 2 heures, pour ne pas avoir des températures trop élevées sur terrasse. Mais encore, c'est tous des paramètres qu'il faut effectivement jouer avec les distances, les hauteurs, bien sûr, les couleurs, les coloris de feuillage, de fleurs, si c'est des conifères. Il n'y a pas simplement de paramètres qui, évidemment, doivent être un peu gérés par un professionnel.
Selon les goûts et les couleurs de chacun.
À l'évidence.
Et c'est fou, hein, quand on vous écoute, on ne pense pas à tout ça. Enfin, quand on passe devant des habitations, des beaux jardins, on ne pense pas à tout le travail qui est fait derrière par le paysagiste, à quoi il a pensé, aux couleurs. Bref, c'est super. Merci Jean-Pierre. On va se retrouver dans quelques minutes. On va continuer l'aménagement de notre terrain en votre compagnie. Nous parlerons des plantations, des haies, des arbres et des arbustes, tout ça.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, nous apprenons à aménager un terrain après la construction d'une habitation. Une maison est un lieu convivial, le jardin doit l'être aussi. Jean-Pierre, notre terrain est désormais prêt à recevoir de nouvelles plantations. Mais avant de courir dans une jardinerie, à quoi faut-il penser ?
Eh bien, il faut penser à tout ce qu'on a envie de réaliser et de planter. Il y a surtout un grand travail de didactique au niveau du choix des végétaux, parce que là, bien sûr, c'est à l'infini. Au niveau des haies, ce que vous souhaitez, si ce sera du persistant, du caduc, des plantes qui vont faire des fleurs, si... Oui, c'est à l'infini. Donc, un catalogue, une liste de végétaux, des noms à l'évidence latins, évidemment, parce que selon la plante que vous souhaitez, le jardinier du coin va peut-être pas savoir ce que c'est le nom patois de cette plante. Et puis après, eh bien, on peut faire une commande, bien sûr, que ce soit chez le pépiniériste du coin, du paysagiste et autres. Il va vous conseiller aussi si c'est des végétaux qui seront en pot, si c'est des végétaux qui seront en racines nues. Les incidents par rapport à ça, c'est que, par exemple, une haie en racines nues du style du charme, le prix sera nettement moins élevé que si vous l'achetez avec des pots. Et puis automatiquement, à cette période, on n'a pas besoin de plantes en pot parce que le charme, l'arbre fruitier, il n'y a pas simplement d'arbres qu'on arrive à transplanter à cette période sans pot, sans motte, donc plus facile, moins lourd et moins onéreux. Et puis une fois que vous avez réceptionné cette marchandise, alors s'attaquer à cette plantation. On mettra évidemment en terre les racines nues en prioritaire, parce que bien sûr, c'est des plantes qui seront quand même un peu en souffrance par le fait qu'ils sont hors sol. À bon tuteur, un arrosage malgré la situation, parce que même comme du tuyas, si malheureusement vous aviez décidé d'en mettre, ce que je vous déconseille évidemment vu les dégâts qu'on a suite aux étés secs, mais mois de janvier, février, si c'est une haie qui vient d'être plantée, qui n'aura pas été copieusement arrosée, il y a des risques de gros dégâts de sec déjà, parce que c'est une plante qui demande de l'humidité. Selon en plus la grandeur du végétal que vous planterez, eh bien les branches feront sorte de parapluie. S'il pleut, l'humidité va couler plutôt sur l'extérieur, et puis en tout cas pas au pied du tuya ou du sapin que vous aurez planté, et puis il y a un fort risque de dépérissement par le sec. Et puis après, ce que vous pouvez faire, une fois ces plantations réalisées, alors on se trouve là, février, mars, vous pourriez peut-être encore faire un faux semis sur les terres que vous avez eues de mis en place durant l'hiver avec le génie civil ou le paysagiste. Un faux semis, c'est une plante qu'on achète du style de la moutarde, de la facélie. C'est des plantes qu'on sème un peu quand on le souhaite. Elles vont démarrer, elles vont aménager différemment la structure de votre sol, elles vont l'enrichir. Et puis au mois d'avril, début avril, eh bien là vous pourrez organiser les mises en place des pelouses. Et puis ça, c'est des plantes qui sont de toute façon annuelles. Donc par une fauche avec un coup de motoculteur, un enfouisseur, ce sera que de la matière organique qui va se décomposer dans le sol. Donc vous n'avez même pas besoin de l'enlever. Et puis la mise en place de vos semis qui vont suivre.
Est-ce que la question finalement, Jean-Pierre, quand on vous écoute parler, est-ce que la chose la plus importante peut-être, c'est pas de prendre son temps quand on veut faire son jardin après des travaux, et surtout de se faire conseiller par un professionnel?
Oui, alors moi je pense que le conseil, il est indispensable pour une réussite dans le cadre d'un aménagement paysager. Il y a beaucoup de paramètres qui, selon la période, devront être faits, pas faits, faits différemment. Il faut quand même quelques notions de base, je pense, pour réussir quelque chose de chouette, oui.
Merci beaucoup Jean-Pierre, nous avons vu avec vous qu'aménager un terrain après la construction d'une habitation n'est pas chose facile, et on aurait pu en parler encore de longues minutes, voire jusque carrément à la fin de l'heure des jardinières. On ne vous arrêtait plus, on vous sent passionné par votre métier. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels comme vous, par exemple, Jean-Pierre.
Merci, c'est gentil.
Les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve et propriétaire de Ribaud Paysages. Les jardinières, c'est votre émission de jardinage.
De jardinière aussi.
Aussi. En compagnie d'un professionnel de la branche, nous répondons à vos questions, et ça jusqu'à 8h.
Et vous profitez, puisque on va le rappeler quand même, c'est la dernière de cette année 2020. Et pour poser vos questions, vous pouvez être en direct avec nous par téléphone. Vous composez le 0 901 70 20 20. Vous pouvez également également nous joindre par SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question. Vous nous l'envoyez au 939. Il y a également la possibilité de passer par le formulaire. Vous pouvez y joindre en plus une photo sur ce formulaire. Ça se passe sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Et d'ailleurs, nous avons reçu une question de Béatrice qui habite Ipsart. Elle nous dit « Bonjour, est-ce qu'on doit arroser les plantes en hiver ?» Alors Jean-Pierre, c'est vous le spécialiste. Je vous laisse lui répondre.
Oui, c'est gentil. Bonjour Béatrice. Oui, comme dit tout à l'heure, bien sûr que les plantes en hiver, il faut absolument les arroser parce que eh bien, c'est des plantes qui sont en toute façon vivantes et puis qui demandent cette humidité pour survivre. D'autant plus que cette humidité, elle est attaquée par le sec de l'appartement, par le chauffage et puis il faut compenser.
Est-ce qu'il faut pchiter aussi ? Enfin, il y a un terme pour ça ?
Oui, pulvériser.
Pulvériser, vaporiser.
Oui, c'est bien, ouais.
Alors, on peut pratiquer plusieurs sortes d'interventions. On peut effectivement pulvériser de l'humidité sur le feuillage. Alors, c'est pas ce qui va compenser un arrosage, à l'évidence, mais ça a l'avantage d'enlever les poussières, les résidus qui pourraient se poser sur les feuilles et puis le rendre un peu plus joli, plus brillant. On peut aussi faire des bassinages, ça veut dire, selon la plante, bien sûr, si c'est un bananier qui se trouve dans un pot d'un mètre cube de terre, on ne va pas y arriver. Mais si c'est une plante style Pladenia ou Fuchsia
Orchidée.
Ou enfin ces plantes, oui, ou Poinsettia, oui, eh bien on peut les bassiner. Ça veut dire que vous prenez la plante dans le pot, vous la mettez en immersion au niveau du pot dans un bassin d'eau tempéré, et puis au bout d'un quart d'heure, vous enlevez cette eau, vous laissez s'épurer cette plante, et puis là vous aurez fait une super irrigation au niveau de la plante, parce que et le pot se sera compensé dans l'humidité, la plante aura gorgé d'eau ses éléments, et puis le terreau se sera remis dans un état standard. Alors oui, il y a des soins particuliers dans l'arrosage, dans la mise en place. Il y a aussi, bien sûr, les endroits où c'est que vous placerez ces végétaux. On va chercher des endroits qui sont vraiment éclairés au niveau de la lumière naturelle pour avoir des pousses qui restent standards et vertes. Si vous avez des plantes qui chétivent et puis qui sont jaunes, automatiquement, c'est le manque de lumière que vous avez. Et puis, la plante, elle est en souffrance.
Merci Jean-Pierre. On rappelle qu'on a fait une émission spéciale avec Tom le jardinier la semaine dernière sur comment prendre soin de ces plantes d'intérieur durant l'hiver.
Et vous les retrouvez en podcast sur notre site internet. Et Jean-Pierre, je me disais, le jour où vous ne voulez plus être paysagiste, vous pouvez faire animateur radio, hein, puisque transition oblige, vous parliez il y a quelques instants des Pladenia. Et ben, notre auditrice Rose-Marie de nous envoyer cette question. Question à monsieur jardinier. Mes Pladenia sont à l'intérieur, 20 degrés. Je n'ai pas le choix. Ils me font des rameaux. Est-ce que je peux les couper ou les laisser ainsi jusqu'au printemps ? Et elle nous a joint également une photo que vous avez sous les yeux.
Oui, effectivement, je vois la photo. On est sur le même schéma que tout à l'heure. C'est une plante qui pousse, bien sûr, durant cet hiver. Et puis, si ses pousses s'allongent et puis sont un peu étiolées, c'est justement le manque de luminosité dans l'appartement dans lequel cette plante est placée. Alors, deux manières de faire, soit les couper au fur et à mesure qu'elles poussent, soit les laisser s'allonger. Puis quand c'est vraiment un peu le fouillis, eh bien, de toute façon, les couper. Mais à l'évidence, au printemps, quand elle ressortira ses plantes à l'extérieur pour repartir pour une culture de saison, il faudra vraiment couper tous ces vieux éléments, ces éléments qui sont chétifs, qui sont jaunes, qui sont amaigris. Et puis là, la plante va redémarrer avec des nouvelles pousses qui seront standards pour une mise à fleur correcte pour l'année 2021.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est la dernière de l'année 2020, donc profitez pour poser vos questions. Raphaël, je vous propose peut-être de rappeler aux gens qui nous écoutent comment faire pour
avec
nous
plaisir,
joindre.
Puisque j'attends vos appels au 0 900 70 20 20 pour parler à Jean-Pierre Ribaud en direct, et puis pour passer cette dernière avec nous pour ce dernier quart d'heure. Et puis sinon, vous pouvez le faire par SMS, vous tapez jardin un espace, votre question au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site. Et je vous propose, Mylène, puisque ça sonne directement.
Écoutez, vous répondez.
On répond en direct et on vous dit bonjour, bienvenue dans les jardinières. Quel est votre prénom ?
Yvonne.
Bonjour.
Yvonne, bonjour. Votre question pour Jean-Pierre Ribaud.
Alors, je vais vous passer mon mari parce qu'il a des petits problèmes dans son jardin. Alors, bonne journée.
Vous aussi, merci.
Yvonne.
Oui, allô.
Bonjour, monsieur le mari.
Bonjour, monsieur Ribaud.
Bonjour, bonjour.
C'est Salga de Mauvelier. J'ai toujours un petit problème avec le persil, moi. Il ne vient jamais bien. Bon, c'est pas maintenant qu'on le sait, mais je voudrais déjà savoir quand je préparerai comment. Qu'est-ce qu'il faut? Peut-être je mets trop de fumier. Je mets toujours un peu du vieux fumier dans mon jardin. Puis je le sème avec une terre assez fine, mais il vient pas. Il vient un petit peu, puis après il crève. Je sais pas pourquoi.
Oui, c'est peut-être du fait que la semence, elle descend un peu trop dans la profondeur du terrain quand vous faites le semis. La semence du persil, c'est vraiment petit. Et puis, faudrait juste semer par-dessus le terrain, donner une petite pression au niveau du sol pour que l'humidité remonte, mais pas plus bas. Après, on sait aussi que le persil, c'est toujours du délicat. Et puis, pour avoir une jolie culture, c'est presque plus facile d'acheter des plantes mottées au printemps que vous plantez dans le carré du potager. Et puis, à l'automne, on sait aussi que, de toute façon, ce persil, il va pas passer... Oui, il va passer l'hiver, mais il y a qu'une année de récolte, hein, vous savez. La deuxième année, le persil, il vient en semence, c'est une bisannuelle. Donc, première année, elle s'épanouit, c'est là que vous avez des superbes récoltes de branches pour les salades. À l'automne, eh bien, ce persil, il persiste, il va passer l'hiver. Et puis, l'année d'après, il ne va plus développer autant de branches. Par contre, il va développer les hampes florales sur lesquelles vous aurez les semences. Donc, c'est une culture qu'il faut remplacer chaque année, ça c'est évident. Et puis, pour plus de facilité, vraiment, les plantes mottées sont nettement plus faciles.
Ah oui, il me semblait que la deuxième année, j'en avais un petit, s'il n'allait déjà pas bien, l'année d'après, on ne le voyait presque plus, quoi.
Alors, à l'évidence, parce que, évidemment, la première année, la plante, elle est censée faire des réserves au niveau des racines pour passer, et de un, l'hiver d'après, et puis de deux, pour redémarrer au printemps, pour avoir un maximum de fleurs et de semences. Donc, si vous avez une plante qui est en souffrance l'année d'avant, automatiquement, la mise à fleurs et à graines ne va pas être épanouie. Et puis, de toute façon, c'est pas le souhait qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est évidemment une super récolte la première année. Et puis après, c'est, comme j'ai dit, une culture qu'il faut remplacer.
Mais moi, je le sème un peu comme la doucette, hein. C'est juste. Hein.
Oui, tout à fait, à cette période-là, avec un peu d'humidité. Oui. Après, il y a aussi...
Pas profond, rien comme la doucette. La doucette, j'arrive toujours. Et puis, il y en a qui n'arrivent pas. Mais moi, j'arrive toujours, mais le persil, j'ai toujours du mal. Alors, je comprends comment il faut faire. Je vous remercie.
Mais merci à vous de votre appel, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur. Alors,
et passez des belles fêtes.
Merci. Des très belles fêtes à vous. Merci, au revoir.
Au revoir, merci.
7h, 8h, les jardinières.
Eh bien, les jardinières, c'est presque fini. On va laisser partir 2020 et nous nous retrouverons en 2021. J'ai écrit sur ma feuille en 2121, oui. Donc, c'est pour dire...
Conservation, hein.
Voilà. Pour des nouvelles aventures au jardin, au potager, au verger, je vous dis déjà la date, on se retrouvera le 9 janvier. Mais avant de se quitter, encore une question. Pour
le 9 janvier, Mylène, vous êtes sûr, c'est pas la semaine d'après?
Non, non.
Si, c'est la semaine d'après.
Oh non, ça va être long. Sérieux.
Oui.
Parce que je viens de vérifier, donc je vérifie très mal.
Oui,
je
complètement.
Je vous fais confiance. Donc ça fait 9 plus 7, ça fait le 16.
Exactement, ce sera le 16 janvier.
Voilà, petite... donc le 16 janvier.
C'est le moment de partir en vacances,
oui.
Mylène. Hein.
Non, je reste ici. Donc Jean-Pierre, voici votre question. Un apicéa, un Nordman ou alors un sapin synthétique, vous avez choisi le vôtre, Jean-Pierre?
Oui, bien sûr, mais alors un luisant dans un pot que je vais pouvoir replanter ce printemps.
Il tient en pot, on se demandait. Ils tiennent
Oui, bien sûr. Alors, à l'évidence, il faut vraiment densifier l'humidité parce que c'est une plante qui est vraiment vivante, au chaud, en souffrance. Et puis, on peut avoir des petites attaques de perte d'aiguilles sur la fin. C'est pas trop grave, il arrive à compenser.
Et pourquoi vous avez choisi un sapin en pot?
Pourquoi? Parce que j'adore ces sapins, puis je trouve dommage de les couper pour les laisser périr et puis les remettre sur ces composts après au mois de février. C'est dommage, tandis que...
Au mois de février?
Vous laissez votre sapin longtemps, Jean-Pierre.
Déjà qu'il est condamné parce qu'il a été coupé. Alors en plus, si vous le gardez qu'une semaine à l'intérieur, alors je vous promets, achetez un plastique, c'est dommage.
Mais c'est une solution. C'est une solution pour des gens justement qui ont pas forcément de jardin pour justement faire du compost derrière, d'opter pour le sapin synthétique.
Oui, à l'évidence. Mais ça, je sais bien. Mais nous, on est des gens de terre, hein, et puis on adore ce végétal vivant. Et puis on aime les complications, peut-être. C'est aussi ça.
Et Jean-Pierre, là, nous sommes le 19 décembre. Dans quelques jours, c'est Noël. Vous prenez des vacances ou est-ce que le paysagiste que vous êtes croule sous une montagne de travail?
Oui, alors le paysagiste que je suis, moi je coule sous des stères de mètres cubes de papier à des décomptes de fin d'année, à l'évidence. Mais après, au niveau des entreprises, non, bien sûr qu'il y a des levées de pieds. C'est des périodes, de toute façon, c'est quand même creux pour nous, on a quand même moins de travail. Il reste bien sûr toutes les tailles, les plantations, mais on arrive à les étaler jusqu'à début mars, donc on n'est pas tendu dans le temps. C'est toute une question de gestion, mais non, alors effectivement, pendant les fêtes, c'est pas très intéressant non plus de prendre une tronçonneuse pour aller faire un abattage le 27 au matin chez le voisin, parce qu'ils ont aussi vacances, donc il faut calmer le jeu.
Merci beaucoup Jean-Pierre Ribaud. On rappelle que vous êtes paysagiste à Queuve et propriétaire de Ribaud Paysages. Merci d'avoir encore une fois été en notre compagnie et un tout bon week-end à vous et des belles fêtes.
Oui, grand merci à vous, c'était super. C'est toujours un grand bonheur de venir parmi vous pour cette super émission et puis des belles fêtes à tout le monde.
Merci Jean-Pierre. Merci également à toute l'équipe de nos jardiniers qui se sont levés le samedi pour répondre aux questions de nos auditeurs, toujours avec le sourire et de la bonne humeur. On retrouvera d'ailleurs toute cette équipe dès le 16 janvier.
Oui.
Passez de belles fêtes de fin d'année, belles fêtes.
Vous aussi, Mylène. Belles fêtes, vous aussi, des belles fêtes à toute votre petite famille.
Et puis, on se dit à l'année prochaine. Et puis surtout, n'oubliez pas, on ne lâche rien. Prenez soin de vous. Merci.
7h. 8h. Les jardinières.